Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, on n'aura peut-être pas le temps des fêtes qu'on avait prévu initialement. Ça va peut-être être une petite affaire plus tranquille. Mais quand même, il y a des festivités qui s'en viennent pour bien des gens. Puis qui dit festivité dit consommation d'alcool. Puis quand entre l'automobile dans la recette, ben faut faire très attention.
Oui, c'est un terrain un peu glissant. Et pour en parler, ben, on reçoit aujourd'hui Bertrand Godin, qui est porte-parole de l'action communautaire de la brasserie Labatt, en partenariat avec Nez Rouge, qui vise essentiellement à améliorer le bilan du réseau routier.
Salut Bertrand.
Bonjour Bertrand.
Hey, salut les gars.
Puis ton temps des fêtes, Bertrand? Comment ça s'annonce?
Ben, ça s'annonce quand même plus réduit, mais avec quand même des moments de bonheur. Et puis, comme on dit, hein, chaque année, on se souhaite la santé.
On va se le souhaiter.
Oui, puis il faut faire les gestes pour que tout le monde le soit, puis c'est encore plus vrai cette année.
Ça fait quand même plusieurs années qu'on associe ton nom, ton visage avec la sécurité automobile. Puis bon, quand on parle de sécurité automobile, on le sait, là, un des gros facteurs qui causent des accidents sur les routes du Québec, c'est encore l'alcool, malheureusement. Explique-moi la nature de ton partenariat, là, c'est avec la brasserie Labatt, ce qui peut sembler peut-être un petit peu ironique, mais comment ça se passe? Comment vous travaillez à sensibiliser la population par rapport à ça?
Ah, mais déjà, écoutez, ça remonte, mon association avec Labatt remonte au début des années 2000. Donc, ça fait 20 ans où, justement, on avait fait une campagne de sécurité routière. Et puis, c'est vraiment tout un honneur là d'être porte-parole d'une campagne avec le plus important brasseur canadien. C'est vrai que l'engagement de Labatt sur la consommation responsable de leurs produits par des adultes, là, c'est important. Et c'est pourquoi ce qu'on veut, c'est que les gens soient en sécurité, que les gens soient responsables quand vient le temps de festoyer. Et ça, on l'a vu avec les années depuis, si on regarde depuis les années 70, 80, 90, il y a toujours eu une amélioration. Des fois, on dit que le message passe pas. Mais il passe le message parce que je vois aujourd'hui les nouvelles générations beaucoup plus responsables. Mm-hmm. Et ça, je suis certain, grâce aux médias, grâce justement à des campagnes, des outils comme Nez Rouge, c'est des choses qui font en sorte que les gens aujourd'hui prennent une décision éclairée.
Par le passé, on a beaucoup tapé sur le clou de l'alcool et on continue de le faire encore aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des méthodes très efficaces pour déceler le taux d'alcoolémie, autant pour monsieur, madame, tout le monde que pour les corps policiers. Mais est-ce qu'il y a des méthodes similaires si on consomme, par exemple, des médicaments ou du cannabis et la méthode pour le déceler serait différente de celle pour l'alcool, là?
Ah, tout à fait. Bon, c'est certain que les policiers ont diverses façons de pouvoir détecter et d'aller chercher précisément les substances qui ont été absorbées par les gens. Donc, ça, c'est certain que ça aussi, ça s'est beaucoup raffiné, ça s'améliore d'année en année. Et ça, c'est important. C'est aussi ce qui fait en sorte que les gens se disent, c'est vrai, j'ai pas de chance à prendre parce que, tu sais, on parle souvent du cas extrême, de l'accident mortel, de l'accident qui cause des blessés, où là, on est accusé, naturellement, de crimes majeurs. Mais il y a aussi le fait que c'est criminel aussi juste d'avoir consommé et d'avoir pris le volant. Donc c'est pourquoi que là aussi les gens se disent on n'a pas de chance à prendre, mais il y en aura toujours des gens malheureusement qui vont pas écouter leur petite étoile en dedans, soit là, de dire tabarouette. Il me semble que je suis correct, mais attention, ces substances-là, la première chose que ça fait, ça dérange le jugement. Et aujourd'hui, comme Labatt le précise, du moment où on planifie notre consommation et qu'on trouve des solutions comme prendre Nez Rouge, appeler un taxi, rester chez un ami, c'est toutes des choses qui vont éviter les accidents, qu'il faut le dire, là, comme l'alcool au volant et autres, c'est des situations complètement, entièrement évitable.
Ben oui, absolument, c'est ça. C'est
une action collective là, fait la différence.
Puis bon, tu parles des nombreuses conséquences en lien avec tout ça. Comment, en 2021, là, je sais que ça a longtemps été bon sur la sécurité. Après ça, on a parlé des possibles bon, dossiers criminels puis tout ça. Comment on fait la sensibilisation maintenant? Est-ce qu'on parle plus de santé? Est-ce qu'on parle plus des dangers liés à l'arrestation puis de ne pas avoir sa voiture pendant un certain temps? C'est quoi la communication, l'angle de communication que vous essayez d'utiliser avec la clientèle?
Ben c'est simple, hein. Puis c'est on le voit très bien avec les nouvelles générations qui prennent la décision de ramasser toutes les clés de ceux qui viennent nettoyer. Et à ce moment-là, on désigne un conducteur. Puis ça, ben moi, c'était mon rôle ça à l'époque parce que moi, je voulais essayer les autos de mes chums. Donc, je prenais pas une goutte d'alcool. J'étais celui qui conduisait toutes les voitures et j'étais très, très bien là-dedans. C'était ça qui était mon petit bonheur. Et puis, faut le dire, un chauffeur désigné, faut que ça soit une personne qui est bon, absolument pas consommée.
Sinon le nom de chauffeur désigné perd tout son sens, là.
Oui, tout à fait. Et connaître nos limites. Hein. Si on décide de boire, il faut le faire de façon responsable et décider à l'avance de combien de consommation on va prendre et de rester tout simplement à l'endroit où on est et puis s'assurer là, qu'il n'y a plus aucune trace d'alcool lorsque vient le temps de prendre le volant. C'est certain, manger avant de boire va peut-être faire en sorte qu'on va consommer un peu moins. Et si on prévoit conduire, choisissons une boisson sans alcool, il y en existe.
Oui, effectivement, il y en existe beaucoup, puis c'est ça, c'est pas le choix qui manque, là. On est loin de la labatte tablette d'il y a longtemps, puis tu dis que ça fait 20 ans que tu fais ça, Bertrand, qui était associé dans tout ça, est-ce que tu le sens, le changement de mentalité entre les générations?
Ah ben oui, énormément. Peut-être parce qu'à l'époque, tout le monde était sous, parce qu'il n'y avait pas personne qui avait du jugement. Là, il y en a toujours un ou deux qui, a décidé que, parce que, imaginez, là, on a quand même tous une part de responsabilité lorsqu'on invite quelqu'un. Puis moi, je l'ai vécu, dans les années 90, j'avais été manger chez des amis, puis ça paraissait pas. La personne, bon, on la voit prendre un verre de vin, tout est beau, on s'en rendait vraiment pas compte. Et cette personne-là a été prise dans un barrage et elle dépassait le
18.
Elle avait eu une accusation criminelle. J'en revenais pas. Parce que cette personne-là avait pas l'air saoule. Tu sais, des fois, on se dit, garde, c'est clair, là, personne n'est pas en état de conduire. Mais le bout du nez ne clignote pas lorsqu'on arrive à ces points-là. Puis en plus de ça, aujourd'hui, avec le mélange d'alcool, peut-être même de drogue légale, en plus de médicaments, Christy, ce mélange-là, même si vous n'atteignez pas le 0.08, c'est simple. Vous êtes probablement en état, pas en état de pouvoir conduire votre véhicule. Vous êtes avec les facultés affaiblies. Puis qui, on le dira jamais assez, conduire un véhicule, c'est une tâche complexe. C'est une tâche à risque. Et lorsqu'on est conscient des risques, ça nous amène à être beaucoup plus vigilants, à comprendre, à avoir du respect pour la route, la voiture et les autres qui sont sur la route. Et ça amène aussi le petit côté humilité qui fait en sorte de dire « Ouais, OK, j'ai rien à prouver là, à prendre mon véhicule. »
Tu nous disais que dans ta jeunesse, tu étais bien souvent le conducteur désigné. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Et en deuxième volet, j'ai envie de te demander, tu es humain comme tout le monde, il doit bien t'arriver de prendre à l'occasion peut-être une bière ou un verre de vin. C'est quoi ton truc personnel à toi pour rentrer à la maison de manière sécuritaire? Est-ce que c'est nez rouge? Est-ce que c'est d'appeler un ami? Est-ce que c'est de dormir finalement chez la personne qui te reçoit? C'est quoi ton truc à toi?
J'attends d'être à la maison pour prendre une bière, Germain.
C'est pas fou, ça?
C'est aussi valable.
mais n'empêche que ce que tu dis, Germain, est très vrai. C'est certain que le pire, c'est de se sentir piégé, c'est-à-dire que tu t'en vas fêter, tu as pris de l'alcool, et là, tu as comme une obligation de dire « Ah, faut que je revienne ». Vous savez, le facteur humain est un facteur imputable. De dire « Ah oui, il faut que je revienne à la maison à tout prix, le mot à tout prix ». Et c'est pourquoi là que cette planification-là de se dire « Ok, bon, c'est quoi ma zone là de penser et d'être très, très discipliné là-dessus ». C'est simple, c'est pas de se retrouver obligé de prendre sa voiture.
Ouais.
Et à ce moment-là, ben il y aura aucune raison de la prendre, cette voiture-là.
Quand on regarde le bilan routier de la SAQ, en sortant là du cadre de l'alcool et des facultés affaiblies, on remarque une tendance à la baisse là d'accidents et de décès, surtout entre 2019 et 2020. Puis ça coïncide aussi avec tes observations où tu dis observer là une amélioration au fil du temps, mais il y a une augmentation très importante et c'est celle du décès chez les motocyclistes. Comment on explique une augmentation de presque 50% des décès entre 2019 et 2020?
Alors que le trafic sur les routes en 2020 était quand même pas mal plus bas là, la pandémie a frappé, ça a été beaucoup de télétravail pour bien des gens.
Et il y a eu une baisse tout le reste, mais pour les motocyclistes, c'était une augmentation et une augmentation très forte. Là.
Oui, bien, vous savez, c'est très difficile d'aller chercher les vraies raisons. Quoique, on peut parler, par exemple, lorsqu'il fait très beau, comme on a eu pendant l'été, ben, les gens préfèrent prendre la moto que prendre l'auto. Donc, il va y avoir plus de déplacements en moto, donc ça augmente les risques d'accident. Puis moi, je suis très prudent avec la statistique des décès et des blessés, parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur la route par manque d'observation, par manque de connaissances, et il va y avoir accident. On va pas répertorier malheureusement tous les accidents et cibler vraiment la cause de l'incompétence du conducteur qui fait en sorte qu'on aurait une statistique beaucoup plus juste. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui perd le contrôle de sa voiture, qui se retrouve carrément dans le décor, mais heureusement, il n'y a pas de blessé, ben il ne rentrera pas dans les statistiques. Mm-hmm. L'autre personne qui a fait la même erreur, qui malheureusement, il y avait une voiture par hasard qui passait juste en rencontre et ça crée un face-à-face, il y a deux morts, on va le comptabiliser. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile et on aurait tout intérêt à aller chercher vraiment les causes réelles pour faire en sorte d'augmenter peut-être l'enseignement dans divers segments de la conduite. Ce que je vois, par exemple, depuis que je fais ce métier d'enseignant de conduite d'urgence, eh bien, j'ai eu la chance de voir pas loin de 10 000 jeunes.
Quand même, hein?
OK, c'est du monde. Donc, je sais très bien certaines lacunes que nos jeunes conducteurs peuvent avoir, par exemple, par rapport à savoir gérer l'attention, de la mettre au bon endroit, au bon moment. Si on augmentait cet enseignement-là, peut-être qu'on aurait aussi moins de distractions au niveau de regarder le cellulaire ou regarder même, ne serait-ce de changer de poste à l'intérieur de la voiture ou regarder le passager lorsqu'on a une discussion avec, on garderait les yeux probablement beaucoup plus sur la route et tout ce qui peut être dynamique, les connaissances dynamiques d'un véhicule associées à la lecture de comment gérer l'adhérence et l'anticiper cette adhérence-là lorsque vient de faire une manœuvre pour mieux coordonner un freinage, pour mieux coordonner un virage.
Absolument.
C'est des choses que moi, je perçois là, qu'on doit absolument...
Fait que l'enseignement de la conduite automobile, mais chose certaine, Bertrand, c'est mieux de le faire à jeun que de le faire en état d'ébriété. C'est ça que je comprends? Si jamais le message n'est pas passé pour certaines personnes, là. Un exclu...
Donc,
Fait que, écoute, Bertrand, évidemment, on invite ou on supplie même les auditeurs qui pourraient nous écouter à pas prendre une goutte, à ne pas prendre le volant quand ils ont consommé de l'alcool. Idéalement, pas prendre une goutte d'alcool quand on prend le volant. Moi, j'essaie d'appliquer ça le plus possible. Bertrand, pendant qu'on t'a au téléphone, je veux qu'on glisse un mot sur l'annulation du Salon de l'Auto de Montréal qui a été annoncé cette semaine. T'étais censé, encore une fois cette année, être l'un des porte-parole du Salon de l'Auto. Comment ça s'est passé à l'interne, cette décision-là? Est-ce que tu l'as appris en même temps que nous? Est-ce qu'on t'avait mis au courant? Je suis curieux de t'entendre à ce sujet-là.
Écoutez, je pense que les gens de la corporation avaient travaillé tellement fort pour faire en sorte de revivre un Salon de l'Auto et tous les efforts de l'équipe pour pouvoir mettre ça en place, c'était phénoménal. Et comme tout le monde, on n'a pas eu beaucoup de journées pour se rendre compte à quel point cette pandémie-là là, explosait tout d'un coup. Je l'ai appris en même temps que tout le monde.
Ouais.
Et j'en suis tellement désolé, c'était une décision avant tout de santé publique et puis mais ça prouve aussi toute la motivation. Il faut y croire, il faut croire qu'on va trouver une solution et qu'on va revivre des fêtes de l'automobile comme le Salon de l'Auto de Montréal nous a habitués depuis tant d'années.
On sait, Bertrand, que l'organisation du Salon de l'Auto de Montréal faisait face à certaines difficultés. Monsieur, madame, tout le monde, je pense, avait hâte de retourner au Palais des Congrès pour assister justement à cette fête de l'automobile. Mais de l'autre côté, bien des manufacturiers automobiles, eux, avaient signalé leur intention de ne pas se présenter au Salon de l'Auto de Montréal, qu'il y ait salon ou non. Là. Donc, bien avant l'arrivée en croissance de ce nouveau variant-là, bien des manufacturiers avaient dit non, on ne sera pas présent. Comment on explique que des manufacturiers automobiles refusent d'aller dans un salon de l'automobile?
Oh, ben, il y a plusieurs raisons et ça, je pense que c'est important de leur demander à eux parce que il y en avait d'autres qui, eux, étaient très motivés à pouvoir aller exposer les voitures et puis partager l'amour de l'automobile. Mais ça, c'est pas d'hier. On en a vu des manufacturiers, des fois, pour des raisons très personnelles au niveau de l'entreprise et stratégiques aussi de dire, cette année, on passe notre tour et on reviendra. C'est pas parce que, par exemple, certains se retiraient que ça veut dire qu'ils ne reviendraient pas dans un an ou deux. C'est toujours évolutif, ce genre de stratégie. Et on le sait, pour certains, les temps ont été difficiles pour pouvoir justement avoir de l'inventaire et ça, c'est une des raisons parmi tant d'autres.
On te connaît pour ton optimisme généralisé, ton sourire, ta bonne humeur. Est-ce que tu crois encore à un salon de l'auto comme on a pu le voir dans les années passées, donc sur plusieurs étages avec des centaines de voitures, des centaines de milliers de visiteurs? Est-ce que tu crois encore à ça?
Croire à ça... j'y crois d'une façon différente éventuellement parce que tout est en évolution. Et puis, c'est certain que les salons de l'auto seront différents de qu'est-ce qu'on a connu, en tout cas moi, de qu'est-ce que j'ai connu à l'époque où on allait à la place Bonaventure, on remonte des années 80. Je regarde comment tout ça a évolué. Et puis, l'interaction qu'on peut avoir.
Jusqu'à 2020, Bertrand, c'était encore très similaire. Tu parles de la place Bonaventure, mais c'était encore le concept de on va là, puis on peut s'asseoir dans les autos, puis tout ça. Cette année, il y avait quand même un optimisme, quand même, malgré le fait qu'il y a plusieurs constructeurs, comme Germain l'a dit, qui venaient pas. Il y avait un optimisme. Il y a plusieurs constructeurs qui avaient annoncé même des modèles super intéressants qui auraient été à Montréal. Je pense au Cadillac Lyriq, Nissan Ariya, tu sais, des nouveaux véhicules.
Des véhicules très attendus pour les consommateurs.
Exact. Il y avait de la viande, là. C'était quand même intéressant. Fait qu'il y a encore une volonté, on dirait, des constructeurs, mais l'aspect autant de gens dans une même salle, est-ce qu'on s'asseoir derrière les véhicules, je sais que c'est un plaisir pour tellement de visiteurs. Est-ce qu'on peut aspirer à ça, selon toi?
Ah, puis poser la question, c'est répondre. Quand, annuellement, depuis les 20 dernières années, c'est pas loin de 200 000 personnes en 10 jours qui venaient au salon de l'auto, ça prouve quelque chose, ça parle, les gens sont heureux de pouvoir voir les nouveautés, mais aussi moi, et je pense qu'on est tous pareils, là, de voir des voitures concept, de voir des prototypes, de voir l'évolution de l'automobile. On a toujours de plus en plus de questions. Et si je regarde par rapport justement à ces années 80-90, où bon, la technologie de motorisation était toujours pareille, aujourd'hui, ben,
la grande nouveauté, c'était l'injection, mais une fois qu'on en a parlé, on a fait le tour assez vite, là.
Oui, tout à fait. Et là, on se retrouve avec toutes sortes de nouvelles solutions au niveau de la conception des batteries, au niveau de la gestion d'énergie, au niveau de la mobilité urbaine. Et c'est pourquoi le salon, à l'époque, avait justement la zone verte pendant tellement d'années et que là, on voit maintenant la voiture électrique dans chez tous les manufacturiers. Mais bon, il y a d'autres solutions où les manufacturiers travaillent et qui vont nous permettre aussi d'avoir un impact positif là, qui va réduire justement l'empreinte écologique sur notre planète.
En tout cas, Bertrand, on va se souhaiter de se reparler en janvier. On va se parler avant ça, j'espère, mais en janvier 2023. Puis on va vraiment souhaiter qu'il y ait un vrai de vrai salon cette fois-là et que la COVID ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Oui, regarde, c'est notre fois le plus cher.
Mais me semble j'ai dit ça l'année passée aussi, fait que j'ai mes petites réserves, là. Mais on va se le souhaiter quand même.
C'est pas le jour de la marmotte, c'est l'année de la marmotte.
C'est l'année de la marmotte.
Hey Bertrand, merci beaucoup. On va te souhaiter des très joyeuses fêtes puis au plaisir de se reparler en 2022.
Ah, merci les gars, puis j'ai hâte de vous revoir. Donc, passez des joyeuses fêtes en santé.
Salut.
Merci beaucoup Bertrand et de très joyeuses fêtes dans ton salon à défaut d'avoir un salon de l'auto.
C'est gentil.